Donc, pendant que les organisateurs cherchent le dernier intervenant, je vous propose de démarrer, puis on l'intégrera dans la table ronde quand il arrivera. Donc nous allons nous interroger ici sur la conservation des machines obsolètes qu'on peut trouver typiquement dans des musées comme le Conservatoire national des arts et métiers ou alternativement dans des cabinets de curiosité maintenus plutôt par des personnes individuelles. Et pour évoquer cette question, on a donc un panel de pour l'instant 3 personnes, dont Nasro Chab, ici, qui est un expert linguistique et médiateur scientifique en langue des signes au Conservatoire national des arts et métiers. Philippe Guillet, à ma droite. Tu diriges depuis 4 ans le Muséum de Nantes et tu as auparavant dirigé d'autres institutions de ce type, comme par exemple l'Office de coopération et d'information muséographique. Donc tu es un expert de la question des musées. Guillaume Habert, ici présent, qu'on connaît aussi comme sous le nom de Corvin Ravencroft. Donc toi, tu es le dépositaire d'une technologie perdue que tu exposes dans le cabinet mirifique du professeur Berlupin. Que vous avez pu avoir l'occasion de voir au festival, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire après la table ronde. C'est par là-bas, près de la sortie. En allant vers la sortie, vous serez obligé de traverser le cabinet du professeur Berlupin. Et puis Stéphane Levallois, qui est illustrateur dans un peu, j'ai envie de dire, dans tout type de médias. Tu t'es aventuré un peu dans tous les types de médias, ouais, de la pub au cinéma, en passant par le jeu vidéo, et tu as plusieurs BD que je pense on peut acheter à la librairie. Est-ce que tu es en dédicace juste après? Voilà, donc vous pouvez le rejoindre en dédicace juste après. Donc pour parler de la préservation des objets obsolètes, j'ai envie de te poser une première question. Stéphane, toi en tant qu'illustrateur, est-ce que ça t'est utile d'avoir à disposition des objets anciens, conservés ici ou là? Est-ce que tu t'inspires directement d'objets? Est-ce que tu en as besoin ou est-ce que ton imagination te suffit?
Alors déjà pardon pour mon retard, mais en fait je suis un petit peu en plus sous le coup de l'émotion parce que j'étais à la projection de La Jetée du film de Chris Marker, voilà, de 1962. Donc déjà c'est un objet, un très bel objet, un très bel ancien objet en soi. Alors je fais de la bande dessinée, mais aussi beaucoup de design, et je travaille beaucoup pour les studios américains, pour les gros blockbusters américains, sur les Harry Potter, sur les Aliens avec Ridley Scott, sur voilà, les Pirates des Caraïbes, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et c'est vrai que... Alors, je dirais que c'est pour ce qui est du cinéma et pour ce qui est du travail artistique, que ce soit sur le cinéma, la publicité, le design ou la bande dessinée, bah c'est vrai que pour tout je dirais... tout créateur, c'est un grand mot, hein, créateur, mais il est la documentation est essentielle, et c'est pour ça que je suis toujours en recherche de documentation, et n'importe qui fait ce métier se doit de nourrir son travail comme ça. Alors après, de pouvoir voir les objets en vrai, c'est un luxe qui devient de plus en plus rare. Voilà, je sais qu'il y avait il y a un magnifique scaphandre, un des premiers scaphandres qui est absolument sublime, qui est visible à Paris. Voilà, il faudrait que je, mon fils l'a vu, mais il faudrait que je fasse le chemin pour le voir, parce que après c'est du temps. Voilà, c'est encore une fois, c'est les musées. Je pense que la visite des musées, c'est un temps qui est un luxe, et aussi le fait d'avoir des musées dans son pays, c'est aussi un immense luxe.
Alors, on ne s'est pas du tout concerté, mais il se trouve que le scaphandre que tu décris, il est souvent derrière moi sur ma photo de profil Facebook, donc si tu veux le regarder. Et effectivement, il est magnifique, c'est le scaphandre des frères Carmagnol. Qui est... Alors, Nasro et Philippe, peut-être l'un comme l'autre, j'ai envie de vous demander, en comparaison des œuvres d'art plus traditionnelles, la peinture, la sculpture, même l'architecture éventuellement, quelles sont les grandes différences qu'on peut voir entre conserver ce genre d'œuvres là et puis conserver des œuvres plus technologiques, plus machines, quoi.
Ok, je commence donc par les aspects de conservation. Effectivement, il faut savoir aussi que on a un problème en conservation, c'est qu'on essaye, nous, de faire durer les objets le plus longtemps possible dans le temps. première des choses. Donc, de toute façon, c'est une lutte contre le temps, c'est une lutte contre la dégradation. Et les machines obsolètes sont un petit peu comme les œuvres, d'ailleurs, d'art contemporain, sont rapidement obsolètes parce qu'elles ont des composants qui se détruisent, je dirais, assez vite dans le temps, quoi qu'on dise, assez vite dans le temps. Mais pour ce qui concerne plus spécifiquement les machines, et effectivement, on pense au Musée des Arts et Métiers, c'est bien entendu de les maintenir en état de fonctionnement. Et je crois que c'est la première des choses, c'est de les maintenir et de pouvoir les maintenir en état de fonctionnement pour autant qu'on sache bien les faire fonctionner. Parce que ça, c'est vraiment le gros souci, c'est qu'on a des machines qui ont pu être conçues au 19e, voire au début du 20e, et pour lesquelles, malheureusement, on n'a aucune idée de la façon dont on peut les faire fonctionner correctement. Alors, bien sûr, le principe, on va l'avoir, mais de le faire fonctionner correctement. C'est d'ailleurs l'objet d'une mission actuellement, hein, qui est menée notamment avec le Musée des Arts et Métiers, sur la conservation du patrimoine contemporain. Et donc, de la façon dont on sait utiliser ces machines. Donc pour cela, ben c'est le témoignage des techniciens qui ont travaillé dessus, le témoignage des ingénieurs, donc témoignage audio, tout ce qui peut, toute la documentation autour de ces objets. Mais c'est vraiment une lutte permanente et incessante.
Oui, tout à fait. Au sein de mon travail, donc je suis médiateur scientifique en langue des signes pour accueillir le public. Et c'est vrai que ce que je remarque au sein de mon travail, à Paris 3e, en fait depuis 15 ans en fait, que j'y suis, je remarque qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont mises en réserve. En fait, en banlieue nord de Paris, dans le 93, à Saint-Denis, il y a un endroit qui est une réserve. Et là, on va protéger les objets, les rénover, comme vous disiez tout à l'heure. En fait, on peut recevoir une machine, mais on ne sait pas toujours, par exemple, comment elle fonctionne. On n'ose pas trop y toucher, on ne sait pas comment faire. Des machines qui datent de plusieurs siècles, des objets très vieux, on ne va pas savoir comment elles fonctionnent. Donc, on les met de côté. Et ensuite, dans Paris, bon, le lieu d'exposition... Le premier objet le plus ancien qu'on a, c'est la première voiture au monde. En fait, c'est une grosse voiture à vapeur. Et on peut la comparer à une personne âgée qui a besoin de marcher avec des béquilles. Mais là, en fait, il n'y a plus de roues, il y a des béquilles. Il y a un aménagement fait pour la tenir droite. Mais là, on se demande comment faire pour la garder comme ça. Et moi, je me suis posé la question en octobre. C'était en octobre 2010. En fait, il y a eu un projet de répliquer à l'identique cette vieille machine pour en refaire un autre modèle. Et là, ça serait une machine donc à vapeur qu'on pourrait exposer auprès de la mairie du 3e. Ça serait vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors, ça ne serait pas la pièce originale, mais une machine à vapeur, et qu'on pourrait sentir la chaleur, on pourrait voir, on pourrait voir les personnes qui seraient habillées dans les tenues d'autrefois, avec les épées, les corsets. On pourrait se dire que oui, faire ça auprès de la mairie, ça serait pas mal, et que ces personnes-là en habit d'époque montent sur la voiture. C'est de voir comment elle fonctionne avec les cadrans. Et en plus, la vitesse, elle roule à 4 km/h. On pourrait la faire un film dessus, savoir comment elle se déplace, voir comment elle est maniée, voir tous les détails. C'est vraiment un objet qui est émouvant. Et puis, c'est vrai que là, l'objet d'origine est dans le musée, mais on pourrait avoir une autre utilisation. Voilà. Je ne veux pas non plus parler trop longtemps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Très bien, très bien. Peut-être, donc, on ressent dans ce que vous venez de dire tous les deux que peut-être contrairement aux œuvres picturales ou ce genre de choses, il y a vraiment besoin d'explications quand on présente une œuvre technologique, si je puis dire. Et donc, quels sont les moyens que vous employez pour donner une espèce de mode d'emploi? Est-ce que, par exemple, vous avez besoin de Stéphane, d'un illustrateur, souvent pour dessiner la machine qui est peut-être... Justement, j'aime bien l'exemple que vous venez de donner. On la montre statique dans le musée, mais ce serait plus intéressant de la montrer en état de marche devant la mairie du 3e. Donc, est-ce que vous avez besoin de dessinateurs ou d'autres... Quels sont les autres moyens que vous avez de montrer le mode d'emploi, si je puis dire, de la machine?
Ben, il y a plusieurs effectivement outils à notre disposition. Alors il y a les répliques, hein, les modèles, donc ça qui sont assez couramment utilisés. Il y a aussi quelquefois des doubles d'objets. Je pense au musée du chemin de fer à Mulhouse, où effectivement il y a des objets qui sont vraiment là pour être en fonctionnement et pour montrer leur fonctionnement. Donc on éclate quelquefois les machines, on les fait fonctionner. Il y a bien sûr le dessin, il y a l'illustration, il y a le numérique maintenant qui nous aide tout de même énormément dans ce dispositif. Alors, pour en revenir à cette question des machines, de tout ce qui est du patrimoine technique, hein, il est très abondant, finalement. Il est très abondant, il est très bien dans nos musées. Alors, le musée des arts et métiers, évidemment, 1793, hein, c'était vraiment la raison de collecter cette... comment dire, tout ce dépôt d'ailleurs au départ, hein, c'était vraiment le dépôt des brevets, hein, où on collectait tout ce qui était fait effectivement sur le territoire français. Hein, je crois que c'est une chose importante. Et puis dans les autres musées, dans les universités, il y a également un patrimoine technique, il y a beaucoup de machines obsolètes, et pour lequel il n'y a pas toujours eu ce soin concernant le patrimoine. C'est assez récent. Et encore, je pense qu'il y a un certain nombre d'universités, je ne voudrais pas aller dans les bennes des universités, parce que je crois qu'on trouverait des choses très très intéressantes. Alors heureusement, il y a quand même des enseignants, il y a des personnels, hein, de ces universités qui sont sensibles à ce patrimoine, qui ont pu le mettre de côté, mais bon, leur destinée n'est pas... on ne sait pas très bien où on va aller. Si à un moment ou à un autre, il va manquer de place dans une université, ben, on aura tendance à s'en débarrasser. Il y a une chose, ben, peut-être qu'on en parlera un petit peu après, c'est la question aussi de tout ce qui est du numérique actuel, de tout ce qui est des technologies du numérique. On en parlera peut-être après. Mais pour répondre à cette question, oui, on a une palette devant nous pour autant qu'on comprenne la machine, hein, ce qui n'est pas toujours simple, mais on a une palette pour y répondre.
Oui, alors globalement, le CNAB, donc c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Pour rapport à sa création, si on revient dans l'histoire, il y a toute l'histoire des moines, puis la Révolution, le fait que les églises aient été complètement pillées. Bon, il y a eu en fait la création, c'était exactement le 10 octobre. Pour l'interprète. 10 octobre 1794. Et donc c'est Grégoire, l'abbé Grégoire. Pendant la Révolution, il y avait beaucoup de pillages, des objets de valeur ont été volés. Et par exemple, la première automobile dont je parlais tout à l'heure, la Fardier, il y a eu des pièces qui ont été prises. Et en fait, cet abbé, il l'a conservé dans l'église des choses pour regarder en archive et pour pas qu'elles soient pillées, justement. Et puis il y avait toute l'histoire des brevets. À l'époque, c'était la royauté qui avait tout ça, et puis il y avait des scientifiques au sein de la royauté. Eux, ils avaient ces objets-là, ils les conservaient. Puis il pouvait y avoir des recherches en parallèle, mais c'était quand même un domaine privilégié de la royauté.
Okay. on va revenir, je pense, au CNAM plusieurs fois dans le débat. Moi, j'aurais Corvin et peut-être toi aussi, Stéphane, je voudrais vous interroger sur le... Donc, Corvin, d'abord, toi, tu as inventé, alors je laisse au public le soin de savoir si j'emploie inventer dans le sens de découvrir ou de concevoir, toute une gamme d'objets et une technologie un peu oubliée. Donc, comment... d'où te vient cette démarche, comment tu l'as mise en œuvre, et qu'est-ce que c'est, et donc tu as créé ou trouvé des objets dont tu as constitué un petit musée. Donc comment t'es venue cette envie de faire un peu le même métier que Nasro et Philippe, mais avec des objets oubliés, imaginaires? Et puis peut-être après, Stéphane, comment toi tu crées des technologies éventuellement ou des objets dans tes ouvrages, quoi.
Alors pour reprendre le contexte, moi je suis que l'archiviste du cabinet mirifique. Le créateur, c'est le professeur Berlupin. Le problème, c'est qu'il a disparu, donc je ne pourrais pas répondre à sa place, je vais essayer. Mais en fait, ce sont des... En fait, les machines qu'il y a dans le cabinet mirifique sont plutôt des sortes d'armes féeriques. On pourrait croire qu'elles sont imaginaires, vous pouvez le croire, vous pouvez croire qu'elles sont réelles, c'est comme vous voulez. Et du coup...
Moi, je pense qu'elles sont réelles. Quand je suis traversé ton musée, je pense qu'il y a des choses qui sont réelles. Vous irez voir.
Bah, c'est le but. Le but, c'est de rêver. Quand on entend des histoires, on pense qu'elles sont imaginaires. Mais s'il y a un objet qui l'illustre, tout de suite, on se dit, si l'objet existe, peut-être que l'histoire est un peu réelle quand même. Et... du coup, j'ai déjà oublié la question.
Non, mais brod à loisir. Hein, mais non, mais comment t'es venu donc, peut-être la conception de ces idées. Donc, tu trouves des plans, c'est ça, où on te donne, le professeur t'a laissé des idées, c'est ça. Et toi, tu conçois ces objets.
Alors, en fait,
et après, tu les conserves, ça comme dans un musée, quoi. Donc,
oui. En fait, le professeur Berlupin a inventé toutes ses armes à une époque où il n'était pas très très bien dans sa tête, et il est devenu marchand d'armes. Il a essayer d'utiliser la magie féerique pour s'enrichir, pour essayer de faire avancer la science. Et
ce qui m'intéresse presque plus, c'est donc comment est-ce que tu vois un parallèle entre ce que tu fais et ce qui est fait par exemple au CNAM ou choses comme ça. Donc tes objets, tu les exposes là-bas, donc tu dois y faire attention, tu dois les conserver, tu dois aussi comme eux donner un mode d'emploi, éventuellement expliquer une histoire.
En fait, chacun des objets raconte une histoire. Il y a différents thèmes, les armes féeriques, il y a les voyages imaginaires, la médecine, la théologie, et chaque histoire est vraie. Et à chaque fois, on rajoute un petit peu de magie. Le but étant de faire découvrir aux gens des personnalités historiques qui ne sont pas forcément connues, des événements historiques qui ne sont pas forcément connus non plus, et leur permettre de se poser des questions, savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Un peu comme je m'inspire beaucoup de youtubeurs, de vulgarisateurs historiques. Et...
tu joues un peu sur cette ambiguïté entre réalité et fiction.
Entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Mmh. Je veux vraiment que les gens se posent des questions, apprennent des choses, et que ça les fasse un petit peu rêver aussi, en plus.
Ouais, on pourra revenir sur les cabinets de curiosité. Je pense qu'aussi, on trouvait des choses. Stéphane, tu voulais...
Oui, non, ce qui m'a fait beaucoup... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par exemple l'appareil photo qui va servir à Conan Doyle pour photographier les fées, pour revenir sur cette histoire des premières fées qui auraient été photographiées, etc. Donc moi j'y ai cru, en fait, j'ai toujours cru. Moi, j'ai cru que c'était une vraie photo de fées et que voilà, il y avait deux petites fées qui avaient été vues par des jeunes filles en Angleterre au 19e. Et voilà, je trouve ça magique parce que de se servir d'objets du passé et qui vont nous permettre de véhiculer un imaginaire, de véhiculer une mémoire ou des mythes. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment très, très joli. Pour revenir aux objets, en fait, et à la conservation des objets et à l'obsolescence, Il y a plusieurs choses. Moi, je me suis servi pour mon dernier album, là, pour fêter les 30 ans du musée d'Orsay, mais qui était plus sur le thème de la technique, finalement. Il fallait que j'illustre, en gros, que je fasse un livre pour fêter Orsay, pour fêter les 30 ans d'Orsay, autour des œuvres d'Orsay. Il fallait que le héros du livre, ce soit Orsay, ce soit les œuvres d'art d'Orsay. Et donc, il y avait un moment, il y avait les œuvres de Hector Guimard, et donc je me suis complètement inspiré des bas-reliefs et des dessins de Guimard, donc le style nouille, hein, vous voyez les stations de métro parisiennes avec cet art floral. Pour en faire, je me suis dit, comment amener ça dans mon récit? Et ben, je vais en faire un scaphandre. Et voilà, qui sera un scaphandre transpictural qui permettra à mon héros de rentrer à l'intérieur des tableaux à l'huile et de se mouvoir à l'intérieur des tableaux faits en peinture à l'huile. Alors le musée m'a dit, Guimard n'a pas fait de scaphandre transpictural. Alors, j'ai dit non, il n'en a pas fait, mais non, c'est vrai, il n'en a pas fait. Peut-être qu'il en a fait un, mais qui a été perdu. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Et puis après, il y aura l'autre thème qui, je pense, est sur... Un, la conservation de tous ces objets. Moi, je sais pas s'il y a des. Moi, je suis des années, né dans les années 70. Donc, mon premier ordinateur, c'était un ZX Spectrum. J'ai grandi avec le ZX 81 16K de mémoire. Voilà. Et j'ai commencé à les premiers jeux. C'était la console que je cherche. Alors, si quelqu'un a la première console Atari en bois acajou pour jouer à Pong. Je suis intéressé parce que voilà, c'est mythique, mais ces objets sont amenés à disparaître ou à se faire rares. Et l'autre thème aussi, c'est ce que vous disiez sur l'utilisation et comment utiliser ces objets. Je pense que ça sera très intéressant de voir la perpétuité de nos ordinateurs et de nos bases de données. On est complètement submergé par le numérique et par une mémoire numérique. Nous confions nos photos. Notre mémoire, enfin la mémoire de nos souvenirs à des disques durs dont la durée est limitée dans le temps. Une photo en argentique, ça va durer un siècle. Elle va s'altérer, mais vous pouvez retrouver des photos de vos arrière-grands-pères et arrière-grands-parents en photo argentique. Un disque dur avec photo stocké sur un disque dur, là, pour l'instant, les disques durs ont une durée de vie qui est évalué entre 10 et 20 ans, c'est ce qui est extrêmement court.
Alors, on va glisser vers les objets technologiques plus modernes. Le ZX 81, je pense que tu avais l'extension derrière pour avoir les 16K. C'était un cas de mémoire.
C'était notre professeur de mathématiques qui nous faisait des cours après la cantine et une sorte d'initiation au basique et au GoSub. GoSub, GoTo et les premiers langages machines. Et on avait 16K de mémoire. Et il n'y avait même pas de touche. Il fallait cliquer. C'était une sorte de plastique pour cliquer sur ces choses.
Ça, si ça t'intéresse, j'ai encore le mien de ZX80. Donc, pour venir sur les objets donc, plus modernes, et puis je pense que l'informatique est le meilleur exemple, il y a plein de choses. Hein. D'abord, ils changent de plus en plus vite, ces objets. Et donc, on peut imaginer que le flux d'objets entrant dans les musées va s'accélérer de plus en plus. Et puis la question que tu disais sur la pérennité des formats, quoi. Est-ce qu'on s'en soucie dans les musées
de... Ah oui, complètement. Et je pense que d'ailleurs on ne pourra pas tout conserver. Hein. Il y a un conservatoire de l'informatique qui est à Grenoble. C'est une association à Conit. Alors il y en a effectivement au musée des arts et métiers. Hein. Il y en a aussi d'autres dans d'autres musées. Mais je pense notamment à cette association. Et c'est absolument impressionnant de voir sur place le nombre de machines qu'ils peuvent avoir. Effectivement, les ZX 81. Moi, j'ai travaillé. C'était sur le Commodore 64 à l'époque. Hein. On a fait ses premières armes là-dessus. Au point où d'ailleurs, je n'ose même pas le mettre en fonctionnement parce que j'ai peur que effectivement parce que l'obsolescence fait que les plastiques, le matériau qui a été utilisé s'est probablement dégradé et en le mettant en route il risque de griller de très belle façon.
J'ai un vieil écran qui a pris feu au bureau exactement comme ça.
Exactement comme ça. Hein. Donc il y a un réel problème de conservation de ces machines, ne serait-ce déjà d'un point de vue tangible, hein, de matériel. Alors, ne parlons pas du logiciel, c'est encore un autre, un autre problème, hein, la conservation même des systèmes anciens. Alors les plus jeunes n'ont pas connu, mais les CPM, les MPM, les premiers DOS, ça c'est des choses qui évidemment, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup d'endroits où on peut les faire fonctionner, à part ces lieux comme Aconit à Grenoble ou peut-être encore un petit peu aux Arts et Métiers où il y a dans ces réserves, ces fabuleuses réserves de Saint-Denis. Alors je ne sais pas si elles sont ouvertes au public tout le temps, mais j'ai eu l'occasion de les visiter à plusieurs reprises. C'est un lieu extraordinaire. Enfin là, je pense que tous ceux qui aiment les machines sont devant. Ah non, il me fait non, je pense que malheureusement, ça ne doit pas être possible. Mais c'est un lieu, oui, il aura la réponse. C'est un lieu extraordinaire, extraordinaire.
Oui, pour faire suite à ça, par rapport à la conservation, effectivement, c'est des lieux où le public n'a pas le droit d'accès, seulement une fois par an pendant les journées du patrimoine. C'est parce que y a des conditions de contrôle, de sécurité. Effectivement, ces objets-là qui sont dans ces réserves, en fait, on peut dire que 95% des objets sont, enfin, qu'on a sont dans des réserves finalement. Et puis ceux qui sont visibles, on va dire qu'il y en a 5%, et ça fait déjà beaucoup. Mais il peut y avoir des matériaux de différentes tailles dans la réserve. En fait, ça fait 1500 m², c'est grand, il y a beaucoup d'étages, il y a beaucoup d'allées, enfin, c'est vraiment le plus grand lieu de conservation d'Europe. Hein. Et il y a également des matériels informatiques très très vieux, imposants, et là, ils sont dans la réserve. Après, c'est pas quelque chose qui... c'est des choses qui sont conservées au fur et à mesure, mais c'est pas un endroit où le public va avoir accès. C'est juste les journées du patrimoine qui leur ouvrent les portes, mais c'est tout. Pas le reste de l'année.
Je voudrais rajouter sur conserver, c'est aussi choisir. Hein ? Il y a des choix à faire. Bon, c'est un patrimoine qui dépend d'une collectivité et c'est donc qui est confié au conservateur. Là, on confie la gestion. Donc lui, à un moment ou à un autre, doit choisir. C'est-à-dire qu'il va choisir en se disant est-ce que ce matériel, finalement, je vais le conserver en l'état, je ne vais pas y toucher, ou alors au contraire, je vais essayer de le maintenir dans son état initial, c'est-à-dire le faire fonctionner, de pouvoir le faire fonctionner. Ça, c'est vraiment un choix qui est fait. C'est pas un choix évident. Donc évidemment, l'objectif, c'est quand même de s'entourer de collègues, hein, d'un choix qui est collectif. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout conserver jusqu'au bout et complètement.
Nasro ?
Oui, c'est intéressant par rapport au choix de ces objets. Parce qu'il y en a beaucoup qui défilent, des ordinateurs qui se développent de plus en plus, oui, avec les progrès. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir un débat entre collègues pour faire le choix. Mais c'est vrai que des objets du XVIe siècle, du XVIe siècle, XVIIe siècle, là, le choix était facile puisqu'il y en avait peu, finalement. Alors que maintenant, avec l'explosion de la technologie, effectivement, le choix est plus délicat.
Stéphane, je t'ai vu prendre ton micro, tu voulais rajouter quelque chose
ou... Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire.
Non, c'est pas... pas grave. Moi, j'aimerais bien savoir votre avis au muséologue sur, comment dire. Par exemple, le steampunk, c'est-à-dire il y a des gens qui s'emparent de la technologie passée et qui lui réinventent une histoire, qui la prolongent, mais fondamentalement, je pense qu'ils s'intéressent vraiment à la technologie qui est du passé. Est-ce que c'est des mouvements qui vous intéressent, qui vous paraissent dangereux, dans le sens qu'on travestit sans doute un petit peu les usages précédents ? Et dans ce débat-là, moi, je pense pas mal au CNAM. Il y a eu Skoyten, le dessinateur de BD, a été très très actif au CNAM. Il a même monté des grosses expos dans lesquelles justement la frontière entre l'usage réel et l'usage fictionnel est assez floue, quoi.
Oui, sauf que le public fait bien la différence entre ce qui est produit et ce qui est la technologie, la science réelle. À partir du moment où il n'y a pas d'ambiguïté, auquel cas, moi je pense que plus on va intéresser de public à nos questions scientifiques, plus finalement on va leur donner de la science. Donc pour moi, tout ce qui permet d'aller plus loin dans le domaine scientifique doit être envisagé. Alors ça peut être effectivement, et bien sûr, l'illustration, la littérature, la science-fiction. Combien j'ai en tête de combien de nouvelles, combien de, d'ouvrages qui sont basés sur le fait qu'on a des explorateurs terriens qui arrivent sur des planètes inconnues et qui se vont devant des machines, évidemment, pour lesquelles il n'y a aucun mode d'emploi. Et ça me fait penser tout à fait à nos affaires d'il y a certains objets d'il y a une centaine d'années. Donc oui, tout ce qui peut permettre, enfin pour moi, je le vois de mon point de vue, je dirais, de muséologue scientifique, tout ce qui va permettre de mieux comprendre la science, de mieux l'appréhender, de mieux comprendre aussi ses enjeux, parce que ça ne sert à rien non plus d'absorber comme ça de la science sans comprendre son environnement. Le contexte dans lequel cette science est apparue aussi, hein, et pour lequel justement on essaye d'aller plus loin, où des gens actuellement essayent à partir de ces technologies du 19e qui étaient très, très mécaniques, alors que maintenant c'est quand même, je trouve ça extraordinaire, moi, justement, hein, et je pense que tout ce qui permet est bon, je crois que c'est un petit peu le fond de ma pensée en la matière, ouais.
Oui, non, c'est la première fois que je viens aux Utopiales. Donc je découvre le festival, et ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est justement de faire se rencontrer l'imaginaire et la science. Je trouve que c'est une idée, c'est un concept qui est ébouriffant, parce qu'il y a d'un côté le travail des auteurs, le travail des écrivains, des dessinateurs, des illustrateurs, des sculpteurs, et de l'autre, la science et des scientifiques et la science pure, les gens vraiment très sérieux. j'ai des collègues qui essayent de l'être aussi, mais voilà, je trouve que c'est fantastique, parce que les deux domaines, finalement, j'ai l'impression, se nourrissent aussi. Je voyais des scientifiques qui avaient choisi science parce que en gros ils adoraient la science-fiction, et peut-être qu'ils voyaient dans un domaine de la science-fiction quelque chose qui pouvait être achevé en science.
Oui, alors si on monte dans le temps, en fait, on va retrouver des machines à vapeur, différents tas de machines. Et effectivement, certaines sont conservées dans des musées. Là, c'est vraiment génial. Et on peut les voir grâce à des expositions. Mais en fait, les expositions, finalement, elles vont pouvoir changer. En fait, il y a un dessinateur américain qui fait des BD. François Amelch, le nom de famille, je ne sais plus. En fait, sa passion, lui, c'est la BD. Et il va aller dans les musées, voir tous ces objets-là, s'en inspirer et faire des expositions graphiques, et notamment en BD. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important. Et en fait, ça fait écho à quelqu'un dans le passé. Justement, donc une célèbre scientifique, donc Jules Verne, en fait. En fait, ses romans, comment il s'en est inspiré? Ben, en fait, il a vu des objets du quotidien, et ça l'a influencé, ça a nourri son imaginaire, et il a créé ses romans, parce qu'il s'est basé d'objets de la vie du quotidien, et puis il en a ressorti une œuvre imaginaire. Voilà, je voulais juste ajouter cette parenthèse.
Non, mais très bonne parenthèse, et ça me rappelle encore une fois Skuyten. Donc pour toi, ça s'écrit Schuyten, voilà. Ça se prononce Skuyten. Donc il y a qui a fait une exposition, moi je trouve magistrale, enfin avec le CNAM, au CNAM, justement sur le mélange entre
La station de métro, ouais.
Et la station de métro des arts et métiers, qui est magnifique. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est une question un peu... Est-ce qu'il y a de l'argent pour faire tout ça? De l'argent public? Est-ce que c'est facile de... Je pense que c'est facile pour personne, mais...
Pour la conservation, c'est drôle, parce que je lisais un article dans Le Monde qui est paru aujourd'hui, d'ailleurs, de Françoise Héritier Auger, qui a été chargée dans les années 90 d'une mission sur les musées de l'éducation. D'éducation nationale, parce que le musée des arts et métiers, contrairement à quantité d'autres musées, ne dépend pas du ministère de la Culture, même si c'est un musée national, c'est un musée qui dépend de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc de l'éducation nationale, pour d'être schématique, ça dépend au gré des dénominations. Et en 91, donc, il y a eu ce rapport soulignant l'état de délabrement absolu de l'ensemble des musées de l'éducation nationale. Alors, le musée des arts et métiers a fait, par contre, dans les années 90, pendant 10 ans, d'une rénovation extrêmement importante, hein, qui a été faite sous la direction de Dominique Ferriot et qui a su rendre à ce musée, je dirais, vraiment une qualité assez extraordinaire. Et il y a eu de l'argent. C'était les grands travaux, les premiers grands travaux de l'État. Après, malheureusement, je dois dire que c'est pas forcément le cas. On parlait de l'association Aconit de Grenoble sur le matériel informatique. Je ne pense pas qu'ils aient tout l'argent qu'il faudrait pour produire un véritable musée de l'informatique sur Grenoble, qui pourrait se justifier par ailleurs, Grenoble étant quand même une place forte en la matière. Donc oui, on arrive à faire des choses, mais non, sûrement pas assez. Ça, c'est très clairement.
Et alors, dans ce contexte, quid de l'intérêt des collectionneurs privés et puis peut-être même des gens comme Corvin, qui, pour le coup, récupèrent des objets, mais les travestissent complètement et prolongent leurs histoires
Ben, je dirais que pour beaucoup de ces machines, heureusement qu'il y a eu des collectionneurs privés, heureusement qu'il y a eu des associations, hein, dans tous les domaines on en connaît, la protection par exemple des locomotives, ça a été fait très très couramment, il y a une association sur Nantes, hein, qui est là aussi pour protéger ce patrimoine technique, parce que ça peut aller évidemment de la petite montre ancienne, mais ça va sur des installations industrielles assez gigantesques, hein, qui sont aussi des témoins de ces technologies d'une période donnée, qui sont à conserver, enfin à mon avis, qui sont à conserver. Alors on peut avoir une vision un peu destructive du patrimoine, en se disant, bon, bah, après tout, maintenant c'est passé, on rase et on continue. Mais non, parce que c'est quand même des témoins, c'est ce qui permet, bon, de toute façon, de comprendre aussi nos technologies actuelles. C'est quand même toute une évolution. Donc oui, heureusement qu'on a ces collectionneurs privés qui font qu'après, à un moment donné d'ailleurs, ces collections deviennent publiques ou ne le deviennent pas, mais sont quand même protégées au titre des monuments historiques. Il y a aussi, je sais plus, le grand pilon par exemple du Creusot, bah, il est conservé au titre du monument historique. Donc il y a matière aussi à conserver, même si c'est du domaine privé.
On pourrait presque imaginer un espèce de grand musée virtuel un jour où chaque collectionneur donne un accès peut-être, pourquoi pas en réalité virtuelle, aux objets qu'il a conservés. Hein. Ce serait une piste à explorer, non ?
C'est une piste qui existe effectivement. C'est le gros travail actuellement dans les musées, hein, c'est cet inventaire et de mettre à disposition, bien sûr, du plus grand nombre ces objets, quitte à ce que ce soit réutilisé, réempruntés après par des créateurs et c'est oui et qui en font tout à fait autre chose.
Ouais. Je me posais justement une question quant à la rénovation ou en tout cas à la rénovation ou la comme j'ai oublié le terme pour les tableaux, justement, la restauration de ces objets. Est-ce qu'il y a une restauration des objets? Est-ce qu'il y a certaines pièces qui sont trop défectueuses et qui vont être refaites, rechangées pour que finalement l'objet fonctionne?
Alors, à mon avis. Par rapport au musée là où je travaille, moi je travaille pas dans la réserve proprement dit, donc effectivement s'ils sont abîmés, s'ils sont salis, on va les restaurer, mais on va pas forcément les faire fonctionner. Par exemple les robots je sais pas qui datent, je sais pas, du 17e siècle, en fait, il peut y avoir des marionnettes, un robot autisé.
Les automates, je pense.
En fait, on va les garder comme ça, mais on ne va pas essayer de les faire marcher. On va juste les faire qu'elles soient propres, pas cassées, et les garder, mais pas plus que ça. Après, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire en détail puisque je ne travaille pas.
La joueuse de tympanon, par exemple, au musée des arts et métiers fonctionne, par contre, hein. Mais il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. La joueuse de tympanon. Oh, c'est un... comment dire, un instrument de musique, hein, bon. Ouais, absolument. Et donc, qui fonctionne. D'autres ne fonctionnent pas, quelquefois. Évidemment, refaire une pièce à l'identique, c'est pratiquement très, très difficile. C'est, en tout cas, c'est toujours très cher. Donc, c'est des choix, là encore, qui sont faits et qui ne sont pas toujours évidents à faire.
Ça me fait penser, en fait, j'ai appris que les premiers programmes informatiques qui étaient soviétiques ne peuvent plus être lus parce qu'on a plus les, on a plus le, ils n'ont plus le matériel pour lire les programmes. Donc c'est passé dans l'oubli. En ce moment, moi, je travaille sur un nouveau projet de livre pour le Louvre sur Léonard de Vinci. Et donc, je me suis un petit peu, ça fait 5 mois que je suis plongé dans Léonard et ses machines, et ses projets de machines, et ses inventions de machines. Et j'ai vu que, en fait, il y a des dessins, il y a des plans de Léonard au nombre de 36 qui n'ont pas été décodés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ce sont des machines, mais on ne sait pas dans l'esprit de Léonard à quoi ces machines étaient destinées, à quoi elles auraient pu bien servir. Et les plus grands spécialistes de Léonard au monde, pour l'instant, n'ont pas élucidé ce mystère.
Fascinant. Je pense bien qu'on laisse un peu de temps pour que le public pose des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro? Oui, je crois qu'ils arrivent du fond, en principe. Non, on n'a pas de micro Oui, c'est pas facile de voir où sont les gens avec la lumière.
Vous m'entendez? Ouais.
Ouais,
hein. C'était pour parler en fait vous pouvez parler de conservation en fait d'objets qui sont très très anciens finalement par rapport à une école contemporaine. Et moi, ça me rappelle le cas de l'université de Nanterre, qui est une très grosse université parisienne et qui a notamment dans ses archives d'énormes fonds d'archives de militants de la guerre d'Espagne et des révolutions russes. Et je sais qu'en ce moment, la fac nous court tout le temps après pour qu'on leur donne nos fonds d'archives à nous, les militants actuels. Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la conservation d'objets actuels et comment finalement on fait le choix? Vous avez parlé des ordinateurs, mais pour des supports, par exemple, nous, les tracts, c'est quand même assez...
Ouais. Je rajoute juste une chose, le papier est extrêmement périssable aujourd'hui. Donc.
c'est compliqué, bien évidemment. Là encore, c'est des choix. Mais je crois que, pour moi, un conservateur, c'est quelqu'un qui doit être dans sa société actuelle. C'est-à-dire qu'il doit se poser la question, qui n'est pas forcément évidente, mais quels sont les témoins actuels de la société tels qu'on voudrait que dans 50 ans, on puisse la représenter? Alors effectivement, les tracts de militants, tout ce qui a été produit localement, c'est une source... alors on va les numériser, très clairement, on va les numériser. Il y a la maison de l'homme et des techniques ici, à Nantes, qui fait un travail fabuleux sur, en plus, l'histoire nantaise, qui est une histoire de lutte quand même... assez forte, une tradition traditionnelle et qui continue à enrichir un fonds patrimonial. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment le conservateur doit être dans la société et se poser, c'est pas la personne qui est dans sa bulle ou dans sa tour d'ivoire et qui a ses petites collections autour de lui, moi j'y crois pas, c'est vraiment le conservateur, il est là et il doit être très, je dirais, engagé même quelque part. C'est une notion d'engagement, c'est-à-dire de se sentir dans un environnement sociétal et de le comprendre au mieux. Alors évidemment, il y a sûrement des choses qu'on manque, mais là, malheureusement, c'est compliqué. Ouais.
Oui, non, je ne sais pas. Après, c'était... Moi, je me souviens d'un... Parce que la machine, c'est jusqu'où on va à l'homme-machine et jusqu'où on rentre dans le thème de nous-mêmes machines et nous-mêmes obsolètes. C'est-à-dire 2045, ce serait à peu de choses près la prévision de la naissance de la première IA, intelligence artificielle, qui va, elles vont avoir des évolutions pas du tout comme les nôtres. C'est-à-dire nous, c'est très 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 lent sur des millions d'années. Et bon, là, ça va être des choses qui vont être le lundi, elles seront complètement nulles. Le mardi, elles seront un peu moins nulles. Le mercredi, elles seront fortes. Enfin, elles seront bonnes. Le jeudi, elles seront très, très fortes. Mais je ne vous laisse même pas entrevoir ce qu'elles seront le dimanche. Et voilà, c'est la question. Je me souviens d'un super épisode de la quatrième dimension en noir et blanc qui s'appelait L'homme obsolète. Et voilà, qui est sur le thème de l'humanité, de notre humanité et nous-mêmes. Faut-il garder les machines obsolètes ? J'espère que oui.
Sans le dévoiler, je crois que le thème des prochaines utopiales devrait permettre une conservation des hommes obsolètes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et on peut les prendre en langue des signes, hein, je crois. Oui, venez avec nous.
Alors, je me mets là pour que tout le monde me voit bien. Par rapport aux objets obsolètes, effectivement, mon métier, c'est historien. Donc, je m'intéresse à la question de la communauté sourde. Et donc, j'ai lu beaucoup d'écrits de personnes sourdes qui ont fait des brevets, qui ont inventé des machines. Voilà, c'est vrai que pour les machines, moi, je contacte mon ami Nasro pour savoir de quoi ça parle. Parce que, voilà, on se complète mutuellement. Moi, en tant qu'historien, je ne connais pas. Et lui, il connaît plutôt les machines. Donc, on a un lien entre nous. On échange par rapport à ça. Le côté histoire, le côté matériel, c'est vraiment complémentaire entre nous. Après, lui, il a besoin d'informations que je vais lui donner par rapport à l'historique. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont travaillé dans la création de machines, par exemple, tous les matériels photographiques. Il y a des sourds qui ont œuvré à ça. Et puis moi, je donne toutes ces recherches historiques à Nasro. Donc il y a le côté découverte des personnes sourdes qui ont participé. Effectivement, nous, on se contacte par rapport à ça. Il me donne beaucoup de choses. Je apprends beaucoup de choses. Par rapport aux inventions, découverte des inventions, effectivement, on a besoin d'être complémentaires par rapport à ça. Et du coup, je le remercie beaucoup, mon ami Yann Quentin.
Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y en a.
Du coup, moi, ouais. Je voulais vous demander, étant donné qu'on a des muséologues, étant donné que les machines sont vraiment quand même très variées et on peut avoir des trucs tout petits comme, je ne sais pas, par exemple, les machines de carrière, etc., qui sont énormes, est-ce qu'il y a des critères spécifiques à cette machine-là ? On va essayer de la conserver, l'autre, non. Est-ce que c'est de la disponibilité ? Est-ce que c'est de l'utilité publique ? Est-ce que c'est de... Je ne sais pas. Oui, l'utilité commerciale aussi, peut-être ?
Non, il n'y a pas véritablement de critères. Après, bon, il y a les localisations. Quand on est dans le nord de la France, les chevaliers de mine, on va les conserver, bien évidemment, parce que c'est aussi témoin d'une histoire. Ce n'est pas isolément la machine, isolément. Un chevalier de mine, je ne sais pas, moi, en plein, ici, dans la région, bon, ça n'a pas vraiment le même sens que là-bas. Donc, il y a des choix. Il y a des choix qui sont faits aussi des commissions. Il y a des commissions qui traite de ces questions-là à un niveau local et à un niveau national pour qu'on ait au mieux que possible une représentation de tous ces, surtout sur les très gros objets qui coûtent extrêmement cher, évidemment, à maintenir en état, si tant est qu'on peut encore les maintenir en état. Après, je sais qu'il y a aussi des procédures. Bah, on fait de la photogrammétrie, on enregistre tout ça, et puis on garde une trace de ce point de vue-là, au point de vue archive, mais on fait pas plus. Mais c'est pas du tout... oui, il y a des cas, on pourra toujours citer des cas où, malheureusement, un objet, quelque chose, un équipement remarquable va disparaître, mais malgré tout, on est dans notre pays, en tout cas, un soin particulier au patrimoine qui fait que ça ne disparaît pas comme ça. Il faut être très vigilant, bien évidemment, partout, dans tous les secteurs, même si c'est pas forcément sa discipline, je dirais, à l'aise. Mais il faut avoir cette idée du soin du patrimoine. Pour les générations futures, c'est ça, hein, c'est pas pour nous, hein. c'est pour après, bien sûr.
Nasro ou Stéphane Nasro ?
Oui, justement, par rapport aux machines, les grosses machines dans les carrières, par exemple, effectivement, oui, c'est une taille énorme. Après, il peut y avoir des maquettes qui remplacent ce genre de machines qui sont énormes pour avoir une idée de ce qu'elles étaient. Pour garder au niveau l'historique, oui, mais remplacer peut-être par des maquettes. Et vous savez, à New York, il y a un musée, la statue de la liberté. Oui, elle est énorme, effectivement. Donc, elle fait 99 mètres de haut, donc c'est à New York. Et en fait, en France, on a un modèle réduit, mais en fait, c'était finalement la première qui a été construite. Et donc, il y a eu cette réplique-là en très grand. En fait, on peut imaginer des maquettes de ces différentes statues à échelle réduite. Je crois qu'il y, a, il y en a une qui a été... Mais il y en a une, un monsieur qui s'appelle Monsieur Bartholdi qui a fait une sculpture, par exemple, de la, cette, de la Tour Eiffel en, en plus petit. C'est des choses qui ont quand même... beaucoup de valeur en fait. Garder ces, ces objets-là en maquette peut aussi avoir une grande valeur.
Je crois qu'il y avait une, il y avait une question qui s'était posée, enfin qui va se poser sur la station ISS, parce que c'est du matériel qui a coûté extrêmement cher et qui va se retrouver avec l'évolution des techniques supplantée par de, une nouvelle station plus perfectionnée, etc. Et ça sera quid à un moment dans, dans les prochaines années de que faire de la station ISS ? Est-ce qu'on la brûle dans l'atmosphère ? Bon, c'était beaucoup d'argent à l'époque, mais voilà, quel respect on va avoir de nos machines périmées, quoi.
Ou est-ce qu'on en fait un musée qu'on pourra accéder depuis les autres stations oui. Bon, je crois qu'on est quasiment à la fin. Oui, vu. Donc, il me reste à remercier nos, nos intervenants. Vous pouvez les applaudir.